commentaire. Démocrite et le sixième sens. Une émission proposée par Raphaël Antoven. Que dire de Démocrite, qui place au nombre des dieux tantôt les images et leurs révolutions, tantôt la nature, capable de répandre et d'émettre les images, et tantôt notre science et notre intelligence? Ne tombe-t-il pas dans la plus grande erreur? Et quand il nie qu'il puisse y avoir absolument rien d'éternel, étant donné que rien ne demeure jamais en son état, n'abolit-il pas complètement la divinité au point d'anéantir l'opinion qu'on s'en fait?
Démocrite est connu comme l'auteur de 13 tétralogies, soit 52 traités où il réfléchit sur les planètes, le système du monde, la nature de l'homme, la disposition du sage, la providence ou la forme des atomes. Pour ce mathématicien, musicologue et ouranographe, dont l'érudition astronomique fait dire à Cicéron qu'il n'est rien dont il ne traite, le cercle, la sphère, la théologie, Pythagore, les saintes écritures et les lignes irrationnelles comptent autant que le champ, la diététique, l'agriculture, l'arpentage, la fièvre, la toux, les maladies pestilentielles et les phénomènes aériens. Je suis assurément, dit-il sans modestie, parmi mes contemporains, celui qui a le plus voyagé de par toute la terre pour m'instruire. J'ai vu quantité de cieux et quantité de contrées, j'ai écouté quantité d'hommes instruits, et nul ne m'a surpassé dans l'art de composer des écrits. Mais pourtant tout a disparu, texte, corps et biens. Il ne reste rien de ce pré-socratique, pourtant mort, paraît-il, 40 ans après Socrate. Diogène Laërce raconte sa vie. Denis d'Halicarnasse le tient pour un autre Homère, et Cicéron lui-même compare la cadence de ses phrases à de la poésie. Mais Démocrite est condamné par la perte de ses œuvres à n'être plus qu'un personnage conceptuel ou la chose de ses successeurs. Démocrite, en fait, c'est l'Atlantide. C'est le savoir enfoui, dissipé sous le temps qui s'en moque. L'homme aux prédictions infaillibles et qui méprisait la gloire n'est plus, pour l'avenir, qu'un atomiste en morceaux, offrant au philosophe le cas d'école assez pur d'un penseur dont il ne reste que l'influence. Comment reconstruire le système de ce monstre en miettes? C'est aussi difficile que de fabriquer la mâchoire de Lucie à partir d'un morceau de hanche, ou de déduire la position de Neptune en partant des perturbations d'Uranus. Démocrite est une étoile dont l'existence n'est avérée que par les trajectoires qu'elle modifie. Et l'incomparable styliste, pour qui la parole n'est que l'ombre de l'action, n'existe aujourd'hui que par des on-dit. Y a-t-il un auto-da-fé sous cette disgrâce? Peut-être. Diogène Laërce raconte que Platon fut empêché de brûler tous les ouvrages de Démocrite comme il souhaitait le faire, et s'étonne que le citateur de tous les philosophes anciens n'ait parlé nulle part d'un homme aussi considérable, là même, dit-il, où il aurait eu l'occasion de le contredire, car il savait, ajoute-t-il, qu'il s'attaquerait alors au meilleur de tous les philosophes. C'est probablement à ce témoignage que Spinoza pense quand il dénonce, dans une lettre à Hugo Boxell, ceux qui enviaient tant le bon renom de Démocrite qu'ils ont brûlé tous les livres si glorieusement publiés par lui. Le fait est que le père de l'atomisme antique, pour qui rien n'existe que les atomes et le vide, et qui résume la diversité des mondes en la justifiant seulement par les différences de nombre, de taille, de forme et d'organisation de leurs particules élémentaires, eût été à coup sûr un remède efficace à la métaphysique de Platon. Un univers sans état d'âme est peut-être la meilleure réponse à ceux qui choisissent de croire au lieu de penser. C'est donc de Démocrite, ou ce qu'il en reste, que nous parlerons aujourd'hui avec Jean Salem, philosophe, professeur à l'Université de Paris 1 et auteur aux éditions Vrin d'une somme sur le père de l'atomisme antique intitulée « Démocrite, grain de poussière dans un rayon de soleil ».
Démocrite croit qu'il n'y a rien après la mort. Et il croit qu'on peut se passer des dieux,
Jean Salem.
Il n'est même pas exclu qu'il ait été athée. Pour ce qui est d'Épicure et de Lucrèce, on sait peut-être que les épicuriens parlent bizarrement théologie matérialiste, ils parlent bizarrement de dieux faits d'atomes, mais qui ne se préoccupent pas du tout de nous, qui sont en dehors des mondes.
Des dieux qui se moquent complètement de la destinée des humains,
des dieux fainéants,
ils ont, des dieux fainéants, qui sont un peu comme des modèles d'ailleurs, dont la vie est une forme, chez Épicure, dont l'oisiveté est presque un modèle pour le sage, non?
On est obligé de chercher quelle était donc la raison. Il semble pas que ça soit la prudence, le masque. Pourquoi Épicure a-t-il parlé de ces dieux qui n'ont pas un intérêt primordial dans la vie de son sage? Apparemment, on devrait pouvoir s'en passer, puisqu'il ne donne ni gratification ni punition après la mort, et qu'après la mort il n'y a rien. Mais, entre autres fonctions, dans le système d'Épicure, ils ont sans doute ce grand avantage de nous dire d'où vient l'idée du bonheur. L'idée, ce sont des images, des atomes qui se promènent, qui se détachent de quelque part. On n'a pas une idée à partir de rien, chez Épicure notamment, mais chez Démocrite aussi. Et c'est pourquoi Épicure a eu l'idée du bonheur, il fallait bien qu'elle vienne de quelque part. On a des êtres qui sont actuellement en acte, au sens philosophique, actuellement heureux. Ce sont les dieux faits d'atomes dont les simulacres, des fines pellicules qui émanent de tout être composé...
Pour venir frapper nos yeux.
Sont venus frapper nos yeux.
C'est ça.
Ou notre esprit, dans le cas des dieux, plus directement.
C'est ça.
Démocrite est certainement athée, possiblement athée. Il parle de grandes images divines, superbes, remarquables par leur beauté, qui impressionnent très fort les humains, qui peuvent même susciter de belles paroles chez les plus fragiles, les plus sensibles d'entre eux, les poètes. Mais est-ce qu'il y a vraiment un générateur d'images qui serait un dieu derrière les images divines? Ça n'est pas clair chez Démocrite. Ce qui est beaucoup plus clair, c'est sa très très belle et très moderne au sens où la Renaissance en reparlera, théorie de l'inspiration poétique. Le poète, c'est celui qui est traversé plus facilement que les autres par un souffle inspiré. Inspiré, on peut penser à nos narines et aux atomes de feu qui sont un peu partout dans la nature.
Voilà pourquoi vivre et mourir reviennent à inspirer et à expirer. Lorsqu'en effet la pression du milieu extérieur devient trop forte et que l'air du dehors ne peut plus pénétrer, comme l'inspiration n'est plus possible, la mort survient pour les animaux. Car la mort est la fuite hors du corps de ces figures, sous la pression exercée par le milieu extérieur.
Il y a dans l'univers démocritéen des petits atomes de feu, pour aller vite, ou ignés, qui sont disséminés un petit peu partout dans la nature. Et la vie, comme dirait Bichat, l'ensemble des fonctions qui résistent à la mort, est maintenu par l'inspiration. Car quand j'inspire, comme tout être vivant, j'ingère des petites particules qui ont une forme sphérique, les sphéroïdes, qui sont précisément ces atomes qui font la texture de l'âme. Ce corps composé de petites particules qui vont, puisqu'elles sont sphériques, très petites, très lisses, beaucoup plus vite que les autres, qui se faufilent partout, qui s'agitent, qui peuvent pénétrer dans tout ce qui ressemble à un canal, à un vide, à un petit pertuis. Et par conséquent, un corps qui s'échauffe au sein même de notre organisme beaucoup plus vite que les autres. L'expiration, au contraire, c'est la régurgitation d'une certaine quantité, l'expulsion d'une certaine quantité de ces atomes de chaleur vitale, si vous voulez, de feu. Et le sommeil, dit un texte latin de Tertullien, père de l'Église, qui était très préoccupé par les atomes.
C'est celui qui croit parce que c'est absurde.
Il croit parce que c'est absurde, mais il croit aussi que l'âme est faite d'atomes. Il parle beaucoup d'atomes. Et le sommeil, chez Démocrite, dit Tertullien, c'est une indigentia spiritus, c'est un manque, une raréfaction du souffle. La mort, c'est un manque beaucoup plus cruel, une raréfaction bien plus radicale.
Létale.
Létale. Vous en expirez un trop gros paquet, si je peux parler très concrètement, pour continuer à vivre.
Si toute réalité est périssable, et en même temps elle est composée d'éléments qui en eux-mêmes sont immortels, on est en présence de ce qu'il faut appeler peut-être, avec les bouddhistes, l'impermanence. C'est-à-dire le caractère de ce qui, pour l'éternité, ne dure pas. De ce qui est fait d'éternité, au sens où il est nécessaire de toute éternité que ce qui advienne à l'instant où ça advient, advienne. Néanmoins, cette éternité-là n'est pas une éternité dans la durée, ça n'est pas l'éternité au sens ce qui n'a pas de fin. Non, c'est une éternité qu'il faut comprendre comme la nécessité qu'ont les choses d'exister à un instant précis et non pas à un autre. Est-ce qu'on peut le dire comme ça? Est-ce qu'il y a chez Démocrite l'idée en somme que tout est éternel mais rien ne dure?
Du point de vue subjectif, il va de soi que notre vie est considérée comme finie, elle est bien finie, elle a un terme, et il n'y a rien après. La mort est comparée à un sommeil éternel, mais comparé toujours avec une base matérielle qui sous-tend le raisonnement, le sommeil, c'est une raréfaction du souffle, ou du moins l'effet, chaque jour recommencé, chaque soir recommencé, d'une raréfaction du souffle. La vie est entretenue par le fait que l'animal ou l'homme inspire des atomes de feu ou des atomes ignés, on va dire, qui se trouvent disséminés un petit peu partout dans l'atmosphère environnante. L'homme démocritéen pense comme il respire, disent certains commentateurs. Il est comme un poisson dans l'eau. La différence, c'est qu'il est dans l'air. Et la mort, c'est une raréfaction bien plus grave, docteur, du souffle et irrémédiable.
Démocrite pense qu'il se produit, à la suite de l'inspiration pour les vivants qui inspirent, un phénomène qui empêche que l'âme soit expulsée du corps.
Mais il n'a dit nulle part que c'est en vue de cette fin que la nature a créé ce phénomène. Car tout comme les autres philosophes de la nature, il n'aborde nullement ce genre d'explication causale.
Pour ce qui est des atomes, des principes permanents, indestructibles, ils jouissent de l'éternité la plus totale. Et le mouvement également jouit de l'éternité la plus totale. C'est pourquoi Aristote pose la question qui est centrale dans l'insatisfaction de tous ceux qui ne partagent pas le matérialisme démocritéen, les vues matérialistes de Démocrite. Bon, Démocrite nous dit que le mouvement est éternel, mais il ne nous donne pas le principe du mouvement. Il ne nous dit pas pourquoi ça bouge, demande Aristote, non sans une certaine indignation, de bonne tenue certes. L'atomiste, comme tout matérialiste, a tendance à dire « c'est comme ça parce que c'est comme ça ». Et c'est dans cette énormité que réside tout ce qui fait matière à scandale.
Donc quand on est atomiste, quand le réel est constitué d'un agrégat d'atomes, quand ces atomes sont immortels et que les réalités qu'ils constituent sont provisoires, on ne peut pas se poser la question de savoir pourquoi les choses sont ce qu'elles sont. Cette question-là n'a aucun sens pour un matérialiste.
On réduit souvent le pourquoi au comment, c'est-à-dire qu'on se passe de la cause finale et on se satisfait de la cause efficiente, qui est très proche de l'attitude du savant moderne à partir du XVIIe siècle, je le concède et même je l'affirme.
On s'intéresse davantage, vous voulez dire, au mécanisme qu'au sens, le scopo prefisso, n'est-ce pas, donc le but préétabli.
Vu anticipé par une divinité sympathique,
providentielle,
un bon Dieu.
Etc. Donc la question même du pourquoi comme la question de la finalité est dissoute avec une ontologie, un discours sur l'être qui identifie toute réalité, y compris même les idées, à des atomes et toute constitution de réalité à des agrégats d'atomes.
Au commencement, toutes les choses étant confondues, le ciel et la terre ne comportaient qu'une forme unique parce que leur nature se trouvait mêlée. Ensuite, les corps se séparèrent les uns des autres et le monde prit universellement l'arrangement que nous voyons en lui.
L'air fut mû d'un mouvement continu et la substance ignée qu'il contenait fut entraînée vers les régions supérieures.
Ce qui était boueux et épais et se trouvait mêlé aux éléments humides se porta ensemble vers le bas à cause de sa pesanteur. Mais comme cette masse en rotation tournait sur elle-même continuellement, la mer se forma à partir des substances humides. Et à partir des éléments plus solides, se constitua la terre, boueuse et extrêmement malléable.
Puis la terre commença sous l'effet du feu solaire à se condenser. Et ensuite, à cause de la chaleur, sa surface commença à lever comme une pâte. Et certaines étendues liquides gonflèrent, en même temps, en beaucoup d'endroits.
Il se forma tout autour des pustules recouvertes d'une fine peau, comme cela peut se voir encore aujourd'hui dans les marais et les endroits marécageux, lorsque dans une contrée brutalement refroidie, un air brûlant se met sans transition à régner.
Je trouve ça superbe et il y a là ce que Nietzsche appelle l'extraordinaire poésie de l'atomisme. Dans le tourbillon cosmogonique, c'est-à-dire le tourbillon qui est, qui préside et qui est la gestation d'un monde, le fait qu'un monde se forme, les atomes les plus gros se rassemblent vers le centre, les atomes les plus petits, vous notez que Démocrite ne dit pas les plus légers. Là encore, il est extrêmement moderne. Les atomes les plus petits sont, du seul fait de la force centripète, poussés vers la périphérie. Ça va donner ces pierres incandescentes qui tournent tellement vite qu'on peut dire à la fois que c'est de la terre et que c'est du feu. Bref, ça va donner les astres. Puis il va se former même une sorte de membrane qui donnera, un peu comme la peau protège l'intérieur de notre corps, qui, vous savez, Spinoza appellerait la pression des ambiants, ça va former une sorte de tégument, de membrane protectrice qui fera qu'il y aura le dedans et le dehors du monde en formation. Eh bien, comment ça se passe, cet assemblage? Comme le dit Lucrèce lui aussi, d'ailleurs, plus tard, ça se passe par rapprochement, pour des raisons purement mécaniques, des atomes semblables entre eux. Et Démocrite, dans ce passage que j'ai en vue, nous dit, regardez le...
Donc qui se ressemble, s'assemble.
Exactement. Qui se ressemble, s'assemble, et pour des raisons purement mécaniques. Pour le moment, les atomes ne réfléchissent pas trop, ça c'est pareil évident. Regardez le mouvement toujours recommencé de la vague sur la plage. Elle laisse derrière elle des galérons disposés à côté des galérons, des galets oblongs, ovales, à côté des galets oblongs. Prenez un tamis, vous y mettez des pois chiches, des lentilles et je ne sais quel autre légume sec. Et en agitant un peu ce crible, vous verrez que les petites choses de forme différente se sont rassemblées. Les pois chiches à côté des pois chiches, etc. De même, dit Démocrite encore, les grues, les cigognes ou je ne sais quelle autre bestiole à plumes, les animaux sociaux, ils se gouvernent du fait que qui se ressemble s'assemble dans la nature. Et nos premiers ancêtres qui vivaient thériodos, c'est-à-dire à la manière des fauves, des bêtes sauvages en tout cas, et sporadènes, c'est-à-dire dispersés, ont peu à peu compris que l'union fait la force, ont vu des silhouettes d'animaux qui leur ressemblaient étrangement, et ont peu à peu constitué des cités, dans un temps où il n'y avait pas ce que les autres peuvent appeler l'âge d'or, mais où il n'y avait aucune des techniques qui rendent la vie un peu commode. Il a fallu inventer le feu, etc. Et s'organiser en cités, et forger des lois.
C'est-à-dire que nous conduisons entre nous comme les atomes se conduisent entre eux.
Voilà.
Il y a un isomorphisme entre la conduite humaine et la constitution du réel.
Les agrégats d'atomes organisés dans ce qui donne la Terre qui est au centre du monde, les astres qui sont à la périphérie, les bancs de galets sur la plage, les bancs d'œufs d'animaux sociaux ou les sociétés politiques se forment en vertu du même principe mécanique qui se ressemble, s'assemble. Sans intention, sans filia originaire, sans attirance,
sans amitié.
Sans amitié, je pense bien sûr à Aristote, sans sociabilité naturelle. C'est l'intérêt bien compris des animaux plus intelligents que les autres, qui étaient nos premiers ancêtres, qui fait que, comme les atomes de même forme, ils se sont réunis.
Quand les deux yeux fermés en un soir chaud d'automne, je respire l'odeur de ton sein chaleureux, je vois se dérouler des rivages heureux qu'éblouissent les feux d'un soleil monotone.
Une île paresseuse où la nature donne des arbres singuliers et des fruits savoureux, des hommes dont le corps est mince et vigoureux, et des femmes dont l'œil par sa franchise étonne.
Guidé par ton odeur vers de charmants climats, je vois un port rempli de voiles et de mâts, encore tout fatigué par la vague marine. Pendant que le parfum des verts tamariniers qui circulent dans l'air et m'enflent la narine se mêle dans mon âme au chant des mariniers.
Dans son sonnet « Parfum exotique », Baudelaire commence le premier quatrain par ces vers. Il dit « Quand les deux yeux fermés en un soir chaud d'automne, je respire l'odeur de ton sein chaleureux, je vois se dérouler des rivages heureux qu'éblouissent les feux d'un soleil monotone. » Autrement dit, quand le poète est assis à côté d'une femme dont on présume qu'il s'agit de Jeanne Duval, quand le poète est assis à côté d'une femme et qu'il sent son parfum, il voit aussitôt se dérouler un univers magnifique qui est le monde de parfums exotiques, qui est un univers où les contraires cessent d'être perçus contradictoirement. ce que je veux dire par ce détour, c'est que on trouve aussi chez Baudelaire, et peut-être est-ce une façon de comprendre ce que vous dites de l'inspiration, l'idée que l'inspiration, avant d'être la visitation d'une muse qui descendrait arbitrairement féconder l'esprit du poète avec sa plume face à une page blanche, l'inspiration réside tout simplement dans le fait d'inspirer, et peut-être tout simplement d'inspirer avec tant d'attention qu'on finit par, en inspirant, percevoir le monde et ses détails.
Tout à fait d'accord, cette synesthésie, comme à peu près tout dans l'univers des atomistes, peut et doit s'interpréter de façon très matérielle. C'est un principe entre nous de méthode, je ne veux pas accabler avec de la méthodologie, mais vous parlez des rêves chez ces gens-là. Il faut tout de suite se demander qu'est-ce qui se passe dans l'esprit de Démocrite ou éventuellement d'Épicure ou de Lucrèce. En gros, Épicure est démocritéen en physique, c'est pourquoi j'en parle tellement. Qu'est-ce qui se passe selon eux en termes de flux atomique ? Tous réduits à ces petites billes ou ces atomes qui peuvent être crochus, pas forcément sphériques, avoir des tas de formes différentes, tous réduits à leur agitation, à leur position relative, à la forme de ces petites choses.
Idem pour les rêves.
Un rêve, vous me permettrez de prendre encore un argument chez un autre que Démocrite, mais c'est une filiation, c'est une tradition, il y a pillage revendiqué. Démocrite est Sanctus aux yeux de Lucrèce, c'est un saint, c'est pas n'importe qui, c'est pas Épicure qui est vénérable à l'égal d'un dieu, mais c'est tout de même le père fondateur de l'atomisme. Un Romain stationne, si je puis dire, parce que ce n'est pas comme nos spectacles qui durent 2 heures, 3 heures, stationne 2-3 jours au spectacle du cirque. Il regagne la maison. Tout le monde dans la maisonnée va dormir en même temps que lui, si du moins ces gens-là sont bien réglés et s'ils dorment la nuit. Mais lui va être visité, obsédé, obnubilé pendant quelques jours par des images de jeux du cirque, de lions, de gladiateurs, etc. C'est que, dit Lucrèce dans le chant 4 de son poème de la nature, ses pores, les trous du gruyère, si vous voulez, que constitue son organisme, ses pores, P-O-R-E-S, ses pertuis, ces canaux, ces vides, vont être par privilège réceptifs aux images, faites d'ailleurs d'atomes certainement crochus aux formes anguleuses, puisque c'est des images violentes, aux images de gladiateurs, de lions et de jeux du cirque qui se promènent encore dans l'air ambiant à Rome, après le spectacle.
Les
Ça vous explique
se promènent
pourquoi
encore,
les défunts que nous pleurons à chaudes larmes au moment de leur départ, nous y pensons toujours avec émotion, mais même si le temps ne fait rien à l'affaire, le temps tout de même apaise les plaies, commence de faire des cicatrices.
Vous voulez
les
dire...
images des gens qui nous sont chers et qui ont disparu se présentent moins fréquemment, moins massivement à notre esprit 5 ans après que 5 jours après.
Vous voulez dire, Jean, que le souvenir d'un disparu, par exemple, étant de la matière, il y a une érosion du souvenir lui-même, que pour un matérialiste conséquent, quand on fait son deuil, en définitive, de quelqu'un, et que la douleur est moins vive, c'est parce que l'image ou le souvenir qui est fait d'atomes s'est en lui-même un peu érodé, à la façon dont une montagne peut s'éroder sous l'effet du vent.
Et ces fines pellicules, ces fameuses fines pellicules qui se détachent du mur ou de vous, ou de la table, et qui font que je les perçois, qui viennent bombarder mes yeux, et qui font que je vous vois, je vois le mur, je vois la table, elles sont statistiquement de moins en moins fréquentes avec le temps qui passe. Ça explique également chez Lucrèce, car là nous avons un poème développé, mais chez Démocrite aussi, d'après les bribes qui nous restent, la naissance des mythes. D'où est-ce que vient dans la religion, dans les légendes populaires, la croyance dans l'existence de centaures ? C'est que de fines pellicules émanant des chevaux et de fines pellicules émanant d'hommes défunts ou vivants se sont abîmées, se sont interpénétrées, enchevêtrées, d'où le bombardement, pas forcément très violent, des atomes de l'esprit de certains humains qui ont, non pas imaginé à partir de rien, mais qui ont cru pouvoir dire qu'il y avait un générateur d'images correspondant à l'image qu'il percevait, cette image n'étant pourtant que le résultat d'une imbrication accidentelle d'une pellicule émanant d'un cheval, pellicule faite d'atomes aussi, et d'une pellicule émanant d'un homme.
Est-ce que ça signifie qu'on peut comprendre à ce moment-là l'univers de Démocrite, donc à partir de cette idée que même le rêve ne nous sort pas du réel et de sa matière, qu'on peut comprendre l'univers de Démocrite comme un univers infini, naturellement, mais cet infini est un infini qui se passe d'au-delà, c'est-à-dire qu'on est dans l'infini, mais dans la mesure où il n'y a rien au-delà de ce qui est, rien n'existe par-delà ce qui existe, il n'y a rien au-delà du ciel qui nous contient, disent les Chinois, dans cette mesure-là, ou dans cette démesure-là, on a donc un univers qui aurait le paradoxe de conjuguer l'infinité et l'absence de transcendance.
Certains ont supposé que nous étions arrivés à la notion de Dieu à partir des événements merveilleux qu'on rencontre dans le monde. Et telle paraît être la thèse de Démocrite.
Lorsque les anciens virent les événements dont le ciel est le théâtre, comme le tonnerre, les éclairs, la foudre, les conjonctions d'astres ou les éclipses de soleil et de lune, leur terreur leur fit penser que les dieux en étaient les auteurs.
Il est certain que chez Épicure et Lucrèce est présente au cœur de la théorie de la connaissance de ces atomistes-là qui, plus encore que Démocrite, ont une postérité empiriste, au cœur de leur théorie de la connaissance est inscrite une sorte de religion de la sensation. Tout ce que nous livre la sensation est vrai et seule la raison peut déraisonner, peut dérailler, peut fausser par ses jugements trop hâtifs, trop rapides, les données de la sensation.
Donc l'erreur ne vient pas de la sensation, mais elle vient des conclusions qu'on en tire.
Tout à fait. De même que dans la morale épicurienne, l'attirance sexuelle, l'éros est naturel, par conséquent il n'est jamais susceptible de fausseté, ou on ne peut pas le prendre en défaut. L'amour-passion, la ratiocination, la deuxième couche, si j'ose dire, que l'humain, avec sa raison qui dépasse la nature, peut ajouter au pur sentiment de plaisir ou au simple désir, c'est de là que naissent tous les maux, notamment la jalousie de l'amoureux transi qui n'en a jamais assez, etc. Pour ce qui est de Démocrite, de sa théorie de la connaissance à lui, l'essence, je crois pouvoir le dire, comme le penserait un savant moderne, l'essence nous donne des informations sur ce qui existe, mais ce n'est là, dit Démocrite, qu'une connaissance bâtarde. Bâtard ne signifie pas, dans le langage sérieux, une connaissance qui n'aurait aucun rapport avec la vérité. C'est une connaissance qui est intermédiaire, qui tient à la fois du vrai et du faux. Passé un certain moment, dit très clairement un témoignage sur Démocrite, qu'on trouve d'ailleurs chez le médecin sceptique Sextus Empiricus, deuxième siècle après Jésus-Christ, passé un certain moment, vient un certain point où on doit laisser en arrière cette connaissance bâtarde, qui nous dit par exemple que le soleil se lève tous les matins, alors que
c'est le premier genre de connaissance.
Et il y a
un élément de vérité légitime dans ce premier genre de connaissance. C'est un point de départ.
À mon avis, d'après les textes qui nous restent, oui, évidemment. Sinon, on ne s'inquiéterait pas de savoir à quelle forme d'atome correspond la couleur verte ou la couleur rouge, etc.
Ce qui veut dire,
passer un certain point, il faut faire intervenir la connaissance qu'il appelle légitime, la connaissance d'intellect, qui nous permet de penser véritablement l'être intime, la texture de la réalité.
Démocrite abolit les phénomènes qui concernent les sens et pense qu'aucun phénomène n'apparaît conformément à la vérité, mais seulement conformément à l'opinion, ce qu'il y a de vrai dans les substances consistant dans la réalité des atomes et du vide. Convention que le doux, convention que l'amer, convention que le chaud, convention que le froid, convention que la couleur. Et en réalité, les atomes et le vide.
Ce qui veut dire que dans les erreurs que les sens nous font commettre, pour reprendre un exemple cher à Épicure, je crois, qui nous font voir une tour carrée de loin alors qu'elle est ronde.
Exactement.
Dans les erreurs que les sens donc nous font commettre, il y a, d'un point de vue matérialiste et donc démocritéen, une certaines formes de vérité, un point de départ à la connaissance. C'est-à-dire que l'erreur n'a rien de négatif. Elle n'est que partiellement vraie, pour reprendre un terme spinoziste. Donc l'erreur que les sens nous font commettre est donc indispensable à la connaissance, dans la mesure où l'acte de connaître intervient à partir de la sensation. Dans la théorie de la connaissance chez Démocrite, c'est comme ça que ça marche.
Si vous voulez, sans entrer dans les querelles de commentateurs, on trouve à la fois dans les fragments les témoignages sur Démocrite. Il disait que le vrai est dans les phénomènes. On lit ça, disons, surtout chez les aristotéliciens et chez Aristote lui-même, témoignant au sujet de Démocrite. Le vrai est dans les phénomènes.
Donc dans ce qui apparaît.
Dans ce qui apparaît. Et on trouve, chez les sceptiques notamment, des témoignages comme ce témoignage assez connu de Sextus Empiricus sur Démocrite. Démocrite disait, deux points, convention que le doux, convention que l'amer, convention que le chaud, convention que le froid, il n'y a en réalité que les atomes et le vide. Et
ce qui veut dire que les idées générales que nous avons, que nous constituons en additionnant, en juxtaposant nos expériences et en nous élevant par induction à une théorie générale sur le mode « tous les corbeaux que j'ai vus jusqu'ici sont noirs, j'en déduis qu'ils le sont tous », ces idées générales sont des conventions mais n'ont en elles-mêmes aucune substance.
Convention, le grec parle, emploie le mot « nomos » qui signifie la loi. Elles sont d'institutions. Du fait que nous sommes humains, nous voyons l'agitation des atomes, par exemple, sous la forme du rouge, ou du vert, ou du chaud.
Ça, ce sont des conventions.
Et de ce point de vue, les sceptiques Sextus Empiricus déjà cités, notamment, vont jusqu'à écrire à propos de Démocrite « Anairei ta phainomena », il abolit les phénomènes. Alors, d'où une inquiétude.
Donc ça veut dire qu'à la fois, on peut dire de Démocrite qu'il ne connaît que les phénomènes.
Exactement.
Et en même temps, il les abolit.
Voilà, d'où une inquiétude légitime chez le lecteur. Et si vous avez des complications à régler, semblent nous dire les épicuriens, tranquillement, débrouillez-vous, c'est parce que la raison fausse les données brutes et toujours vraies qui sont données par la sensation.
Ça, c'est formidable.
Pour ce qui est de, alors évidemment, pour parler comme Monsieur Purgon, on tombe dans une sorte de phénoménisme qui, chez Épicure, entre nous, non seulement n'est pas fort moderne, mais est parfois un peu effarant. Les astres que nous voyons dans le ciel, disent les épicuriens, lune, soleil, leur ordre de grandeur est à peu près celui qu'on leur attribue avec les yeux du corps, c'est-à-dire ni beaucoup plus grand ni beaucoup plus petit que les sphères qu'on voit dans le ciel. Le phénoménisme, comme dirait M. Purgon, est quand même une grave maladie. Démocrite échappe à ce genre de contradiction. Il y a les phénomènes, et on peut trouver le vrai dans les phénomènes, comme dit Aristote quand il parle de Démocrite, et en même temps, on doit les abolir à partir d'un certain point, parce que pour savoir que sous, derrière, en deçà du rouge, du vert, du chaud, il n'y a qu'agitation de corpuscules élémentaires qui n'ont aucune couleur et aucune chaleur en eux-mêmes, il faut penser. Il faut construire le système atomistique.
Donc, pour résumer ce que vous dites, Démocrite ne perçoit que les phénomènes, comme dit Aristote, dans la mesure où il n'est rien au-delà de ce que nous percevons, et Démocrite abolit les phénomènes, comme le dit Sextus, dans la mesure où le phénomène perçu est indûment, par exemple, si je perçois le rouge, est indûment appelé par moi rouge, alors qu'en réalité, ce phénomène est une addition d'atomes qui s'agitent et qui ont pour effet de produire sur moi l'impression du rouge. Donc, à la fois, nous ne percevons que les phénomènes, et en même temps, il faut aller au-delà des phénomènes, vers le singulier, le mouvement singulier, qui nous donne l'impression que nous avons.
Et disons qu'il dit donc par ce Démocrite...
C'est compliqué
beaucoup,
ça, hein, oui, c'est difficile à penser.
Il dit beaucoup plus clairement, et d'une manière qui nous parle beaucoup plus à nous, modernes, qui voyons même de loin ce que fait la science, il nous dit beaucoup plus clairement que ses successeurs épicuriens, que dans cet univers d'atomistes, de toute façon, tout ce qui arrive, les amours, les couleurs que vous voyez, les beaux paysages, les guerres, les cataclysmes, ce ne sont que des accidents de la matière faite d'atomes et du vide.
Alors, il faut quand même revenir sur la théorie de la connaissance chez Démocrite et sur ce rapport au phénomène, parce que vous parliez de phénoménisme tout à l'heure, dans un langage purgonien, enfin, langage de M. Purgon, mais cette théorie de la connaissance, finalement, c'est de la phénoménologie, Jean Salem. Prenons un exemple, dans L'œil et l'esprit, Merleau-Ponty parle de la piscine, la fameuse piscine qui, au Toulonnais, dont les reflets viennent imprégner les cyprès. pour Merleau-Ponty, il faut réhabiliter le monde dans lequel, contrairement à ce que l'esprit fait en mettant de l'ordre en fait dans le désordre, dans le chaos des phénomènes et des sensations, il faut, à rebours de ce mouvement rationnel, réhabiliter le monde dans lequel les reflets de la piscine sont effectivement dans les cyprès. Il y a une façon de voir le monde qui consiste à réhabiliter, j'allais dire les illusions, mais disons les impressions qu'il nous fait. Et la légende raconte, je ne sais pas ce qu'elle vaut, vous allez me dire, mais la légende raconte que Démocrite avait un remarquable sens de l'intuition. On raconte cette histoire, c'est Diogène Laërce qui dit ça. On dit qu'une jeune fille accompagnait Hippocrate et que le premier jour Démocrite lui dit « bonjour vierge » et le lendemain « bonjour femme ». Et en effet, la jeune fille avait perdu sa pureté pendant la nuit. Est-ce à dire que, quand on fait partir la connaissance du phénomène, quand on ne connaît qu'à partir du phénomène, on développe finalement, à force de faire reposer la connaissance sur les cinq sens, ce qu'il faut bien appeler un sixième sens, qui résiderait non pas dans un don venu du ciel, mais tout simplement dans une perception plus aiguë du réel. C'est la même personne en somme, mélange de Démocrite et de Merleau-Ponty, qui dirait « les reflets de la piscine se trouvent dans les cyprès, en un sens », et qui, voyant une jeune fille, recevrait tellement d'informations du spectacle de son visage qu'il saurait quand elle est vierge et quand elle ne l'est plus.
Il est clair que il y a un moment pré-réflexif, antéprédicatif, qui est le moment dans lequel le monde s'impose à moi avec son chatoiement,
le moment de la sensation, ce qu'on appelle.
Voilà. Et on fait une large place dans ce qui devait être le discours de Démocrite à cela. Pour ce qui est du sixième sens que Démocrite, dit-on, attribuait tout à fait aux animaux et aux sages. Pour ce qui est du sixième sens, de cette intuition fort développée, l'affaire de la jeune fille qui aurait été déflorée pendant la nuit, on trouve la même anecdote au sujet de Protagoras, ça veut dire plus
grand relativiste lui-même, s'il en est.
Grand relativiste, et ça veut dire qu'on prête aux sages antiques une sorte de pouvoir de divination, ou en tout cas des recettes de grands hygiénistes, de grands médecins, et pas seulement de grands encyclopédistes, pas seulement des connaissances d'hommes tout connaissants, omniscients.
Mais il faut bien qualifier cette divination, ce qu'elle signifie. Est-ce que, par exemple, on peut la comprendre, pour prendre un exemple qui va parler à tout le monde, est-ce qu'on peut la comprendre sur le modèle du réflexe qu'ont eu les éléphants au moment du raz-de-marée ?
Je pensais à eux en vous parlant. Ils ont tous, paraît-il, refusé d'obéir aux consignes données et ils se sont enfoncés vers l'intérieur des terres, en sauvant ainsi beaucoup de gens. À Sri Lanka notamment, il faut essayer d'interpréter ça en termes atomiques. On y est condamné dans ce système qui a au moins pour lui une belle unité. La croyance populaire parle beaucoup de l'inspection des entrailles des animaux, l'hépatoscopie notamment. On regarde le foie et on est censé lire l'avenir.
Ce qu'on appelle les haruspices.
Les haruspices à Rome ouvrent les animaux avec cette sympathique intention de connaître l'avenir. Je reprends l'expression dans un roman de Conrad. Il n'est pas exclu qu'en termes très matériels, et dans un système très rationaliste qui ne fait appel à aucun bon dieu ou à aucun démon sympathique qui viendrait nous enseigner quoi que ce soit, de façon privilégiée, il n'est pas exclu qu'en inspectant les entrailles des animaux, se dit Démocrite, on saisisse un peu comme l'ombre de ce qui doit arriver.
Et c'est pas de la pensée magique, c'est ça qui est important.
C'est pas de la pensée magique, c'est qu'il y a peut-être des traces matérielles d'une modification de l'atmosphère, que sais-je. Autre exemple, ils ne ramassent pas tout, en gros il n'y a que ces deux exemples-là. La gettatura, comme dit un auteur d'un article italien, autrement dit le mauvais sort, le mauvais œil. Il est possible que des ennuyeux sorciers, comme traduisent les humanistes au XVIe siècle, des sortes de magiciens, à force de nous en vouloir, d'avoir envers nous de mauvaises pensées, ne cessent, somme toute, de nous bombarder avec des atomes qui ont des formes un petit peu tranchantes, aiguës, anguleuses.
Ce qu'on appellerait par exemple des mauvaises vibrations.
Des mauvaises vibrations, comme on dit aujourd'hui, à tout bout de champ. Il n'est pas impossible que ça nous atteigne, que ça ait physiquement un effet nocif. Donc, il y a une tentative je dirais pas d'exégèse allégorique des mythes les plus vulgaires, les superstitions les plus communes, mais une tentative, disons, de les prendre au sérieux jusqu'à un certain point pour montrer qu'elles sont peut-être fondées finalement sur quelque chose qui n'est pas si irrationnel que ça.
Donc ça veut dire...
Et qu'elles sont explicables en termes atomiques surtout.
Donc ça veut dire que le philosophe qui réhabilite la sensation et qui par conséquent réhabilite le fait que la tour ne soit pas la même selon qu'on la voit de près ou de loin, ce qui est une position que Platon va combattre vigoureusement, puisque Platon contre Protagoras dira que ça n'est pas l'homme qui est la mesure de toute chose, mais Dieu qui est la mesure de toute chose, et que par conséquent on peut accéder à une certaine forme d'objectivité. Pour le dire très vite, dans le Thé et Tête, Platon propose un exemple, je crois qu'il s'agit du vin, dans lequel il dit, si le vin te semble amer à toi qui est enrhumé ou je ne sais plus, il n'aura pas le même goût au palais de celui qui n'est pas enrhumé, et par conséquent, si on s'en tient à la sensation, on ne peut rien connaître, puisque dans un cas le vin n'est pas bon et dans l'autre il est exquis. Donc Platon combat cette position au nom d'une objectivité qui voudrait finalement qu'on en vienne à analyser la molécule du vin. Les philosophes qui réhabilitent la sensation, donc qui réhabilitent ce relativisme absolu des perceptions, sont également ceux qui se donnent les moyens d'une connaissance intuitive du réel, au sens où, à partir du moment où toute réalité perçue vient frapper nos yeux, la perception nous livre une somme d'informations sur le réel, sur ce qu'il est, mais également sur ce qu'il sera, donc sur l'avenir, qui, paradoxalement, alors que Démocrite n'aime pas les dieux, alors que Démocrite n'est pas du côté de la pensée magique, réhabilite des positions comme celle de la divination, des prédictions, de tout ce qui semble, finalement, relever du domaine de la pensée magique.
Démocrite et la plupart des philosophes de la nature qui traitent de la sensation inventent quelque chose de tout à fait extravagant. Ils considèrent que tous les sensibles sont tangibles. Mais s'il en était ainsi, il est évident que tous les sens seraient une sorte de toucher.
Est-ce que ça veut dire que la vue, le sens de la vue, fonctionne comme un toucher plus lointain, à la façon dont Merleau-Ponty toujours pouvait dire que voir, c'était avoir à distance?
Aristote reproche expressément aux atomistes, puisqu'Aristote est mort quand Épicure avait 18 ans, donc à Démocrite, Aristote reproche aux atomistes de faire comme si tous les sens n'étaient que des modalités du toucher. Et il a parfaitement raison. Tous les sens sont un contact.
Oui, puisque pour Démocrite, le noir et le rugueux, le blanc et le lisse...
Absolument. Et puis, j'entends, ce sont des particules, des atomes qui viennent d'une source sonore. Je sens par le nez, je respire, je hume, ce sont aussi des grains de matière qui viennent vers moi et qui me pénètrent.
Est-ce qu'on peut dire, et je sais qu'on le peut puisque vous le faites dans votre livre, pour en revenir à ce qu'on disait du rêve tout à l'heure, que l'univers démocritéen est à comprendre sous la forme d'un alphabet qui, de la même façon que les lettres, par le changement de leur ordre et de leur disposition, donc me permettent de constituer un grand nombre de mots et une infinité de phrases, de la même façon, les mêmes atomes qui forment le ciel, la mer, la terre, les fleuves, le soleil, forment également les moissons, les arbres, les êtres vivants, et qu'en somme, les atomes seraient les lettres de l'alphabet mondain, terrestre, dans lequel nous nous situons.
J'écris cela, et avant moi, Lucrèce l'a écrit. Lucrèce, comme son maître Épicure, comme Démocrite, ne cesse de filer cette merveilleuse analogie ou métaphore selon les cas. Enfin, disons qu'il y a un rapport chez tous ces atomistes entre les lettres de l'alphabet et les atomes qui ne se voient pas. Dans la métaphysique, Aristote nous explique que selon les anciens atomistes, autrement dit Démocrite et Leucippe, maître de Démocrite dont Épicure a été jusqu'à contester l'existence historique, sans doute allait-il un peu loin, mais enfin, maître de Démocrite dont il ne reste pas grand-chose, c'est le moins qu'on puisse dire.
Aristote déjà que de Démocrite, il reste quelques bribes.
C'est vous dire. Aristote dit que les anciens atomistes affirmaient que toutes les différences phénoménales se réduisent, somme toute, à trois types de différences entre les particules élémentaires. Les atomes se distinguent entre eux par leur forme, comme A se distingue de N. Pensons, si je puis dire, imaginons des majuscules. Les atomes se distinguent également, et à partir de ce moment-là, il faut qu'il y en ait au moins deux qu'on considère, par leur ordre, comme AN se distingue de NA, et les atomes se distinguent aussi par leur agencement, par leur position. On retourne à un atome individuel qui pourrait, par exemple, être symbolisé dans un cas par la lettre H majuscule debout, qui en grec correspond à un E long, eta, et la lettre H majuscule, si vous l'écrivez couché sur la ligne, c'est une ancienne graphie de la lettre grecque Z, zeta. Donc par le simple changement de sa position, elle a une lecture, elle signifie quelque chose de différent.
Et on comprend les atomes selon le même modèle.
Je ne cesse d'écrire un poème, dit Lucrèce, où tu vois des mots qui ont des éléments communs, qui s'enchevêtrent, qui s'intercalent, qui se déplacent. Vois par exemple le mot ignis qui signifie feu et le mot ligna qui signifie ligne. Tu vois bien qu'ils ont comme un air de famille et qu'en même temps il y a des bouts, des lettres, des segments spécifiques dans ces mots-là. Le A dans ligna qui ne se retrouve pas dans ignis. Et tout ça fait un poème composé de mots au sens et au son différents. Alors c'est une analogie stricte entre nous chez les épicuriens. Pourquoi ? Parce qu'un alphabet, ça comporte 26 lettres, l'alphabet latin, 28, je crois, l'alphabet grec, 32, l'alphabet russe, c'est un nombre fini. Et pour les épicuriens, il y a un nombre très très grand, indéfini, mais ça veut dire très grand, pas infini, pas apeiron, dirait Épicure, mais ouais, apérilepton. Ouais. Voilà. Alors, c'est un nombre grand de composantes, un alphabet. Et par conséquent, l'analogie est stricte. La nature, chez les épicuriens, elle l'œuvre, si vous voulez, comme un imprimeur qui aurait des tiroirs dans lesquels vous avez une infinité, premier tiroir de A majuscule, une infinité de A minuscule dans le deuxième et de B majuscule dans le troisième, etc. Tandis que chez Démocrite, il y a un nombre infini de tailles et de grandeurs d'atomes possibles. À mon avis, les textes ne sont pas limpides, mais à mon avis, bien sûr, tous inférieurs au seuil de discrimination sensible.
Vous voulez dire qu'on ne peut pas les voir, quoi.
On ne peut pas les voir, n'imaginons pas des atomes aussi gros que un mouton, une pomme, ou pourquoi pas un monde. Mais il y a une infinité de formes, de tailles d'atomes chez Démocrite, et la comparaison avec les lettres est donc à ce moment-là un tout petit peu plus bancale, même si elle n'en est pas moins joli.
Néanmoins, on pourrait dire, contre Galilée, pour qui la nature est écrite en langage mathématique, que là, la nature est écrite en langage poétique.
Oui, en langage littéral, tout à fait d'accord.
A, noir. E, blanc.
I, rouge.
U, vert. O, bleu.
Voyelle.
Je dirai quelques jours vos naissances latentes. A, noir corset velu des mouches éclatantes
qui bombinent autour des puanteurs cruelles.
Golfe d'ombre. E, candeur des vapeurs et des tentes. Lance des glaciers fiers. Roi blanc, frisson d'ombelles.
I, pourpre, sans cracher. Rire des lèvres belles dans la colère ou les ivresses pénitentes.
U, cycle, vibrement divin des mers virides. Paix des pâtis semées d'animaux, paix des rides. Que l'alchimie imprime au grand front studieux.
Oh, suprême clairon plein des strideurs étranges, silence traversé des mondes et des anges.
Oh, l'oméga rayon violet de ses yeux.
Faut-il regretter, comme on le fait, la perte des manuscrits de Démocrite ? S'il ne l'était pas, Démocrite ne serait pas ce fantôme qui hante la pensée d'Aristote à Merleau-Ponty et dont les paroles finalement se perdent moins qu'elles ne se transforment. Voilà, c'était Commentaire consacré à Démocrite. Merci à Jean Salem pour les conversations qu'il nous a accordées. Merci à Anne Brissier et Georges Kless pour la lecture des textes. Merci à Estelle Gapp, à Brigitte Bouvier pour la réalisation, à Éric Boisset pour la prise de son et à Annick Brien pour le mixage. Vous pouvez réentendre cette émission toute la semaine sur notre site internet www.franceculture.com. Mais vous trouverez également les fragments des philosophes qu'on appelle présocratiques, rassemblés et traduits par Jean-Paul Dumont dans l'édition de La Pléiade. Je rappelle enfin que Jean Salem est l'auteur de Démocrite, grain de poussière dans un rayon de soleil, publié chez Vrin. Dans 15 jours, commentaire évoquera la figure magnifique et douloureuse de Giordano Bruno, à qui son audace valut de périr sur un bûcher après avoir eu la langue arrachée. Mais tout de suite, la parole est à